Alors, donc ce soir, c'est le cours numéro 2. Sur le premier cours, si vous vous rappelez, on avait parlé de la nature et de la surnature. Donc, on essayait de creuser un petit peu ce qu'était la nature de l'homme. Alors aujourd'hui, ça s'intitule « Ni ange ni bête », mais en fait, on va traiter deux sujets qui sont à la fois la place de l'homme dans le, par rapport aux animaux, aux anges et dans, le, dans les différents règnes de la création. Et puis, on va aussi parler de la dimension corporelle et de l'âme humaine. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un gros morceau. Voilà. Alors, donc je suis partie de Hébreux, où on dit « Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci ?» Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis sous ses pieds toutes choses. » Ça, c'est Hébreux qui positionne l'homme, qui repartant de la Genèse, hein, évidemment, et de beaucoup des psaumes, nous place l'homme comme à la fois un peu en dessous des anges et en même temps couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis sous ses pieds toutes choses. Donc voilà, on a une place de l'homme quelque part. Mais on s'aperçoit assez vite que c'est pas si facile de situer l'homme dans l'échelle des êtres, parce qu'en fait il y a cette dimension d'intelligence et capacité d'aimer qui font qu'il a l'air de dépasser tout ce qui les autres créations. Alors Bérulle définit l'homme comme un néant capable de Dieu, mais c'est probablement ce qui permet de réconcilier les deux, c'est-à-dire à la fois c'est une création qui n'a pas l'air d'avoir grand-chose pour elle, et en même temps qui est capable de Dieu et donc qui est capable du plus grand. Voilà, donc on va d'abord commencer par regarder comment Dieu a construit une création qui est étagée. Donc je vous ai mis deux schémas ou distinctions. Qui sont très classiques en philosophie ancienne, où on met les trois règnes, donc végétal, animal, homme, avec à chaque fois ce qui... Donc, vous avez les noms, pour le végétal, c'est la nature physique, donc c'est très matériel, voilà, et ça a l'instinct de se nourrir et la force de croissance, mais ça ne possède pas l'activité sensorielle. Vous avez l'animal, qui... Alors, les mots sont piégés parce que âme... En l'occurrence, là, c'est plutôt psyché. Et donc, du coup, c'est pas l'âme au sens où on le verra tout à l'heure, l'âme spirituelle. Donc, tous les mots sont un peu embrouillés. C'est comme esprit, on le verra. Mais là, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, c'est des mots qui sont compliqués parce qu'ils sont employés de façon différente. Donc, l'animal, il a à la fois l'instinct de se nourrir et la force de croissance. Mais en plus, il a l'activité des sens. Mais il n'a pas la raison. Et l'homme, il a à la fois toutes ces qualités-là, plus la raison et l'intelligence. Et donc, on parle d'esprit. Pour l'homme. Alors après, c'est les mots grecs, donc du coup, on verra tout à l'heure un peu ce que ça peut dire. Une autre façon de découper les règnes, hein, c'est de dire il y a ce qui est intelligible et corporel. Donc là, ça introduit la notion intelligible de ce qui est les anges, par exemple. Il y a ce qui est corporel, ce qui est privé de vie. Donc là, on est vraiment sur le règne minéral même, et ce qui est vivant, végétal, et puis ce qui est sensible. Mais privé de raison, c'est l'animal, et puis raisonnable, c'est l'homme. Donc on est un peu sur la même façon de regarder. Donc ce que nous montrent ces schémas, et puis même cette approche philosophique qui est très consonante avec la création, c'est que la nature s'avance en suivant un enchaînement logique. Et donc on a une progression dans la création.
Quel est le lien entre intelligible et corporel?
C'est une façon de ranger les choses. Il y a l'intelligible au sens non corporel et le corporel. Ensuite, dans le corporel, il y a ce qui est privé de vie et ce qui est vivant. À chaque fois, c'est deux façons de dire. Donc, c'est une séparation du monde en deux. C'est deux notions qui sont exclusives. Voilà. Si on est corporel, on n'est pas intelligible. Et si on est intelligible, c'est comme les anges, en fait. Voilà. Donc, c'est pas immatériel. D'accord. Parce que c'est pas ça. Mais c'est pas corporel. Voilà. Alors, quand on regarde Descartes, donc là, je fais des bonds, je ne fais pas du tout du linéaire dans le temps en termes de choses. Donc, ce que Descartes a posé comme au XVIIIe siècle, c'est vraiment le dualisme entre ce qui est des choses extensa, donc qui suivent les lois de la physique, et puis tout ce qui est les choses, rex, cogitans, donc c'est-à-dire ce qui réfléchit et ce qui raisonne. Donc, lui, il met un monde très binaire. En fait, qui n'est pas du tout consonant avec ce que nous dit la, la Genèse et la création, qui est beaucoup plus subtile que ça, avec différents niveaux, etc. Et puis même de notre expérience, voilà. Et en fait, ce dualisme a conduit à beaucoup d'excès et de dérives intellectuelles, et c'est toujours quelque chose qui est assez prégnant dans notre façon de penser, voilà, d'être très binaire, et c'est tout ce qui conduit à faire l'homme est un animal comme un autre, et donc l'animal a les mêmes droits que l'homme, ou inversement, dire bah, du coup l'homme est côté rex cogitans et l'animal est côté rex estensa, ce qui n'est pas vrai non plus, parce que c'est pas non plus un végétal, c'est pas rien, et du coup ça veut dire que l'animal est une machine, et donc on peut en faire ce qu'on veut, etc. Donc en fait on voit que le dualisme de Descartes et d'un certain nombre de pensées philosophiques font que, bah, du coup, on n'a pas cette bonne appréciation du rôle de chacun et de la place de chacun, en fait. Et qui est très contraire à ce que nous dit la Genèse et toute la création et tout ce que Dieu nous dit, qui est qu'il nous montre une création qui est vraiment ordonnée. Voilà, d'ailleurs, on le voit, la création, elle a été faite en 6 jours. Voilà, il y a quelque chose qui est en progression, qui s'élève. Donc, Grégoire de Nice parle même que la nature s'élève par les propriétés de la vie qui sont comme des degrés du plus petit jusqu'à la perfection. Donc, pour lui, l'homme qui est à la fin du 6e jour, c'est la perfection. Voilà, et il y a cette notion dans la Genèse de selon son espèce, puisqu'à chaque fois, on dit, il créa selon son espèce. Et ensuite, il vit que cela était bon, etc. Et donc, il y a, pour chaque espèce, il y a quelque chose d'une perfection propre qui fait que l'animal, il a aussi Dieu lui a donné une place. Voilà, c'est pas non plus... Il y a une intention, même sur toutes les espèces, y compris, évidemment, l'homme.
Est-ce qu'il y a une nuance entre l'intelligence et la raison ?
Non. Là, en l'occurrence, c'est un peu la même notion. C'est pas, enfin, là, je fais pas, c'est pas assez subtil pour distinguer. Et ce que nous dit la Genèse, c'est du coup qu'elle est créée dans un état de cheminement, que la perfection n'est pas complètement atteinte, puisque on voit que l'homme est quand même en devenir, mais on n'a pas une évolution continue. Donc là, on a, alors, j'ai pas trouvé beaucoup de choses et je peux pas vous parler beaucoup de la position de l'Église par rapport à la position de Darwin sur l'évolutionnisme, qui d'ailleurs lui-même est déjà pas mal voilà, revisité, parce que c'est plus exactement la même... voilà, ça a été complété, on va dire. Mais on voit qu'en tout cas, cette genèse, cette création, elle est faite dans un cheminement. Donc il y a... mais il y a un certain nombre de degrés quand même, et cette notion d'espèce qui fait qu'il y a des touts qui sont quand même avec des sauts qualitatifs, ce qui n'est pas... Ce que Darwin, lui, niait, c'est-à-dire que lui, c'était une évolution continue qui fait qu'à un moment donné, bah, l'espèce évolue tellement que... donc on nomme espèce uniquement le fait qu'un certain degré d'évolution, il ne peut plus y avoir de reproduction entre le nouvel être et puis quelque chose d'avant. Donc du coup, on dit que c'est une nouvelle espèce, mais c'est un peu comme une convention au milieu d'un flux continu d'évolution. Ce n'est pas comme ça qu'est pensée la création, puisqu'il y a une intention. Et donc, il y a quand même des places de chacun. Voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il y a une évolution. Et la création en 6 jours nous le dit. Voilà. Benoît XVI avait pas mal... dans sa première messe de son pontificat, il avait parlé de cette notion d'évolution en disant que... à la fois, il y a évolution et en même temps, il y a l'homme qui a été posé... voilà, qui n'est pas juste le fruit d'une évolution, mais qui a vraiment une intention et qui est posé comme une créature. Et donc, qui a du sens. Voilà. Et donc, chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Le christianisme a fait l'option de la priorité de la raison créatrice au début de tout et principe de tout. Donc, ce n'est pas une question de hasard et de fluidité des choses. Il y a une vraie intention. Donc, les choses sont créées telles qu'elles doivent être. Alors, l'homme est un animal, mais pas comme les autres. Donc, incontestablement, on est en continuité avec le règne animal, surtout avec les formes les plus évoluées. Évidemment, on se compare moins à un lombric qu'à un singe, par exemple, voilà, ou un dauphin. Donc, il a un système nerveux central qui coordonne les informations, transmet les commandes, un appareil sensitif, donc tout ce qui est sensoriel, qui lui fournit des renseignements diversifiés sur le monde qui l'entoure, notamment la perception binoculaire qui permet d'évaluer les distances, un système de reproduction sexuée, qui assure à la fois la perpétuité de l'espèce et le renouvellement des combinaisons génétiques. En ça, on est très consonant avec les animaux. Donc, comme les autres animaux, on a aussi la mortalité qui fait disparaître cette forme contingente remplacée par d'autres en un perpétuel brassage. Et même au plan psychique, on a de larges ressemblances. Il y a eu pas mal d'études d'animaux qui montrent des sentiments presque comme la passion amoureuse, la convoitise, la colère, certaines formes d'altruisme avec des animaux qui vont sauver d'autres de leurs congénères, etc. Pourtant, l'homme dépasse le règne animal. Déjà, il y a quelque chose autour du coefficient d'encéphalisation, donc notre capacité crânienne qui montre quelque chose autour de la raison et de ce qu'on est capable de faire. Il y a la station debout qui est assez intéressante. Gérard Denis en a fait tout un paragraphe pour expliquer que de libérer les mains, ça permettait d'utiliser les mains pour parler, pour se connecter avec les autres ou même pour créer aussi. Donc on a cet usage-là. On a les outils, même si certains singes, par exemple, se servent de pierres pour casser des coques, mais c'est un usage à un instant T. Ils n'en font pas quelque chose qui est reproductible et utilisable pour d'autres choses. Donc voilà. Et puis tout ce qui est autour du langage, où il y a une forme d'engage articulé, mais qui est plus l'émission de signaux que vraiment quelque chose d'élaboré. En fait, on peut trouver dans beaucoup d'animaux, dans certains animaux, des choses qui sont très proches de l'homme. On parle aussi de l'intelligence du dauphin, qui est capable d'apprendre des choses. Mais en fait, on ne les trouve jamais tout ensemble. Voilà. Donc, ce qui est aussi sur l'être humain, ce qui nous montre qu'il y a un saut qualitatif, c'est qu'il y a ce côté de pluralité dans les choses qui sont différentes. Et puis, on a beaucoup parlé du culte et de la sépulture, qui traduit cette idée qu'il y a une perspective au-delà de la vie, qu'il faut prendre soin du corps, même après la mort, qu'il y a quelque chose à voir avec les défunts. Et puis, cette insatisfaction de l'homme qui fait qu'à chaque fois, il essaye d'aller plus loin, comme s'il avait une blessure inscrite en lui qui est de désirer toujours plus et toujours mieux. Voilà, et ce qui permet à notre intelligence de se révéler, puisqu'elle elle doit aller plus loin pour toujours chercher au-delà. Voilà. Et de fait, on est un des animaux les moins équipés. On n'a pas de pelage, on n'a pas de corps, on n'a pas de sabots, on n'est pas très bon en instinct. Nos sens ne sont pas forcément les mieux aiguisés, ni la vue, ni l'ouïe, ni les oreilles, ni tout ce que vous voulez. On est un peu comme un prématuré. Mais cette relative pauvreté fait que notre intelligence est... elle démultiplie nos possibilités pour pouvoir rester en vie et pour pouvoir même aller créer et faire d'autres choses. Voilà, donc à la limite, ça nous donne quelque chose qui nous fait aller encore plus loin. Et puis, peut-être plus profondément, c'est l'homme qui se développe dans une relation avec ses semblables. Donc là, on a le petit homme, il est très longtemps avec ses parents, avec sa famille. Voilà, il n'est pas très vite autonome. Et cette forme de dépendance, c'est aussi... on est dépendant des relations avec autrui et d'être avec d'autres. Voilà. Donc, cette capacité relationnelle est aussi ce qui nous distingue. Et donc, on a quelque chose de pas achevé et de quand même radicalement différent de l'animal. Alors, si on regarde de l'autre côté, du côté des anges... les anges, c'est... On peut se dire, c'est quoi ce truc, ça, un peu l'impression que ça pourrait être une réminiscence du monde païen et que... une réminiscence du monde païen, mais en fait, ils surgissent à plein de moments dans la Bible. Et même quand on se dit à d'autres moments où ils écartent un certain nombre de choses païennes, finalement, il y a toujours des anges. Et Jésus lui-même a parlé des anges. Donc, c'est quelque chose qui est là dans la révélation biblique. Et il y a d'autres êtres qui ont une intelligence, une capacité d'aimer, mais qui n'ont pas de dimension corporelle. Donc ils sont présentés comme des messagers divins, beaucoup dans les psaumes, mais aussi dans tous les choses apocalyptiques où on voit la cour autour de Dieu, dans Job, dans les psaumes, tout ça. Nous savons que certains d'entre eux ont, comme les hommes, ont mal usé de leur liberté, ont refusé de servir, mais leur refus plus grave que le nôtre a entraîné leur malheur éternel et les rend acharnés à propager le mal. Donc ça, c'est les apparitions de Satan, du démon, etc., du diable. Bien sûr, on sait rien, quasiment rien sur les anges, mais ce qu'on voit, c'est que c'est des créatures qui sont fortes, intelligentes, probablement plus que nous, et qui ont une capacité de comprendre les choses au-delà de ce que nous, on a. Mais Dieu a voulu les mettre à notre service, souhaitant que ses grands serviteurs accompagnent la marche tâtonnante de ces petites créatures humaines, objet de tous ses soins. Voilà, donc dans Matthieu 18, il nous parle des anges gardiens, et puis tout le livre de Tobie, où on voit Raphaël qui s'occupe de Tobie, de son père, de trouver sa femme, de le guérir, voilà, un ange à son service. Un deuxième aspect, donc le monde invisible existe, et les anges existent, mais l'homme n'est pas un deuxième ange. Donc le deuxième concile de Constantinople en 553 a condamné les positions d'Origène, 3e siècle, qui était très dans la logique platonicienne, et qui pour lui disait les âmes préexistent. Et puis à un moment donné, c'est comme des anges. Et puis à un moment donné, ils atterrissent dans des corps. Donc c'est la vision très platonicienne qui fait que le corps est un tombeau. Pour Hygène, il y avait quelque chose comme on a mal vécu, on a des inégalités, et donc on a un corps mal loti, quoi. Enfin, on n'a pas de chance dans notre vie corporelle. Voilà. Et donc, quelque part, il se disait que la résurrection promise par Jésus, c'était une sorte de désincarnation qui nous permettait de quitter ce corps et de connaître à nouveau la vie céleste. Bon. Origène a été condamné pour ça, puisque ce n'est pas du tout la position de l'Église. Il y a d'autres choses d'Origène qui sont très bien, mais celle-là, ce n'est pas bon. Et donc, toute une histoire avec les... On aurait été comme des sphères, parce que le sphère, c'était la chose parfaite. Alors, du coup, on serait comme des sphères dans le ciel, donc pas très pratique pour se rencontrer, puis bon, c'est pas notre corps. Alors il y a cette phrase de Marc, qui est quand même un peu troublante dans l'évangile, de Marc en 12:25. « Lorsqu'on sera ressuscité des morts, on n'épousera pas et on ne sera pas épousé, mais on sera comme des anges dans les cieux. » Alors en fait, cette phrase, elle intervient à un moment donné où on parlait de la veuve qui avait épousé les sept frères, qu'on a eu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc c'est il était vraiment dans le contexte de la reproduction et de la descendance en fait. Donc ce qui veut dire là, c'est qu'il n'y aura plus de reproduction au ciel puisque le nom des élus sera atteint et donc il n'y aura plus l'enfantement. Voilà. Et donc du coup, la vie des ressuscités sera semblable à celle des anges dans le sens qu'ils seront plus en mode reproduction dans la lumière de Dieu. Voilà. Donc, ça ne dit pas forcément qu'on sera comme des anges au sens qu'on l'aurait été et qu'on le redeviendrait. Alors, l'avantage de se comparer aux anges, c'est que ça nous donne des précisions sur la condition humaine. Donc, déjà, on voit que les anges ne sont pas des familles. Hein. Chaque ange est en lui-même une espèce. Il est tout seul de son espèce. Ils se transmettent pas la vie. Ils naissent immédiatement de Dieu. Alors que l'homme, Dieu a voulu qu'il ait cette consonance avec le fait que les êtres découlent les uns des autres. Donc, le Fils est engendré par le Père. Clairement, dans la génération éternelle, c'est vrai. Mais voilà, et le Saint-Esprit procède de l'amour mutuel du Père et du Fils. Et donc, nous, on est dans des familles et on est en chaîne. Donc, on a cette chose que Dieu nous a donnée de particulier. On n'a pas de rédemption chez les anges. Donc, on a l'impression que leur choix est définitif. On n'a pas l'impression que Satan puisse redevenir un ange bon. C'est fait comme ça. Donc il y a quelque chose d'immédiateté chez l'ange, alors que nous, au contraire, on est en devenir, quelque part, on est en croissance. Et donc on a aussi tout ce temps, à la fois donc, individuel et collectif de l'humanité, pour aller vers le choix décisif et puis avoir la résurrection finale. Voilà. Il y a aussi une mode de connaissance qui est un peu différent. Je crois que c'est le troisième cours, le quatrième cours, qui sera beaucoup sur la façon dont on apprend, tout ce qui est autour de la connaissance. Mais l'ange ne connaît pas de la même façon que nous. Il y a une sorte d'intuition et d'immédiateté de sa connaissance. Alors que nous, on est plus dans une découverte où on reçoit des informations, on les traite, on les processe. Donc on est aussi... et petit à petit, et on connaît comme ça par itération. Voilà. En fait, tout ça, c'est pour dire qu'on est, nous, on est ancré dans le temps. Alors, c'est toujours la notion de temps, elle est complexe parce que... Parce que du côté de Dieu, il n'y a pas de temps au sens strict. Du côté des anges, il n'y a pas de temps au sens strict. Et pourtant, il y a des choses qui se passent, qui se déroulent quand même dans une certaine Alors, c'est pas la même chose que notre temporalité, qui a du changement, mais il y a pas une sorte de stabilité qui fait que c'est tout d'un coup, pouf, la vie éternelle, ça va pas être un gros bloc et puis il se passe plus rien. On aura toujours une sorte de progression ou d'avancement, même si c'est pas une notion de temps comme celle qu'on a. Voilà, et donc on voit bien que les anges et les hommes sont très différents, mais que les deux sont appelés à une vision béatifique, même si chacun louera Dieu finalement selon son mode, voilà, avec ses modalités. Donc nous verrons Dieu et l'ange, il louera Dieu, mais sans le voir forcément, en tout cas pas avec des yeux comme nous. Voilà, donc les anges, c'est bien, sont bien des créatures, c'est pas juste une façon de dire la divinité. C'est des créatures qui sont... Et le fini, c'est l'homme. L'infini, c'est Dieu. Mais on a matière à beaucoup de choses. Et c'est très important de garder cette... Enfin, le Père Giton, en tout cas, nous parle souvent de en quoi la dimension angélique, le fait d'avoir un monde un peu invisible autour de nous, ça nous remet aussi à notre place que la création, elle est bien plus grande que ce que nous, on croit. Donc à la fois, on va le voir, on est un peu au sommet de la création corporelle, mais on n'est qu'une créature, et cette pluralité dans la création nous rappelle ça aussi. Et puis quelque part, nous montre aussi l'immensité de ce que Dieu peut faire quand il crée, quoi. Voilà. Ça nous empêche aussi de penser que Dieu est comme un maillon de la chaîne. Donc si on était un homme parfait, on serait Dieu. Ben non, c'est au-delà. Dieu, il est Dieu et nous, on est une créature. Et donc, il n'y a pas de maillon. Et puis, à la fin, on a Dieu qui est la perfection de toutes les perfections. C'est pas du tout ça. Dieu, il est radicalement différent de nous. Les anges sont aussi radicalement différents de nous. Voilà, donc ça nous rappelle aussi ça. Alors, l'homme au sommet de la création. Donc, maintenant, on a essayé de le voir avec par rapport aux animaux et par rapport aux anges. Et là, on va le voir, la place que Dieu lui confère. Donc, à la fois qu'il est l'homme trop grand pour ce qu'il a de petit et trop petit pour ce qu'il a de grand. Donc, toute l'abîme nous montre la disproportion entre la précarité de la vie confiée à l'homme et puis la haute vocation qui est la sienne. Alors, j'ai cité quelques psaumes, mais on peut lire quasiment tous les psaumes qui nous traitent ce sujet-là. C'est-à-dire, un coup, c'est en quoi l'homme est rien, ses jours sont très peu de jours, il va retourner à la poussière, il est incapable de rien. Et puis en même temps, d'un autre côté, juste au-dessous des anges, tu l'as fait plus grand que... Voilà, donc il y a toujours ces deux contemplations. Donc d'un côté, l'homme qui dure peu, et de l'autre, un petit peu moindre qu'un dieu. Alors dans l'homme qui est fragile et qui dure peu... Il y a aussi cette notion de se dire, et c'est pour ça que pendant longtemps dans l'Ancien Testament, vous avez très peu d'allusions à quelque chose après la mort. C'était l'idée de montrer encore plus la distance avec Dieu qui lui est immortel et l'homme est mortel. Et donc, voilà, il y avait cette idée de les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. On est, c'est d'une autre radicalité, l'éternité en Dieu. Et tous les textes de la sagesse, la Qohélète, qui sont vanité des vanités, tout est vanité. Voilà, on se donne du mal pour rien, et de toute façon, tout va mourir, tout va tomber en poussière, etc. Voilà. Bon, et par ailleurs, donc dans le psaume 8 notamment, tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Et donc, alors, un peu moindre qu'un dieu, est-ce que c'est des anges? Ça peut être traduit de différentes façons. Mais en tout cas, on est quand même assez haute vocation. Voilà, et c'est aussi tout ce qui est autour de dans la Genèse, où il est à la fois à l'image de Dieu, et puis il est placé par Dieu comme étant le maître de l'univers. Donc il doit dominer la création, au sens régner sur la création, et puis cultiver, cultiver la terre, faire prospérer les choses. Donc Dieu lui confie les animaux et les végétaux, le reste de la création, pour en faire bon usage et pour la faire grandir. Alors, en plus de la disproportion naturelle, donc là, on voit que c'est notre condition humaine, la Bible nous laisse pressentir une autre qui est celle qui résulte du péché. Tous, ils sont dévoyés, tous ensemble pervertis, pas un homme de bien, pas même un seul. C'est pas un psaume très, très rigolo, celui-là. Donc on est peu de choses. Il n'y a rien de bien chez nous. Depuis la chute, on voit bien que l'homme est atteint dans tout son être par les conséquences de la rupture avec Dieu. Et donc, même son corps est rendu vulnérable. C'est le passage où Dieu lui fait des tuniques pour l'habiller. Voilà, ça dit quelque chose de sa vulnérabilité qui, tant qu'il était avec Dieu, ben, était supportable, au sens pouvait être. Et après, ben, voilà, ça lui complique la vie quand même. On a notre cœur qui connaît le désordre des passions. Notre intelligence, elle est même obscurcie. Donc, on ne comprend plus très bien toutes les choses. Le cœur alourdi, c'est fermé, comme dit psaume 119. Voilà. Et pourtant, on reste homme. On ne régresse pas au rang d'humain. Donc, on est chassé du paradis, mais pas en tant que, voilà, redevenir un animal, mais on reste humain. Donc, Dieu ne reprend pas ce qu'il a fait. Et il nous laisse roi, quelque part. Voilà. Mais même sans le péché, on voit bien que dans la Bible, l'homme est créé petit enfant. C'est saint Irénée qui en parle comme ça. Et il est façonné avec la glaise du sol. Et donc, il y a quelque part sa finitude qui aurait pu être l'occasion d'aller plus haut et avec Dieu. Et avec le péché, ben, on voit bien qu'on est un peu rattrapé par les lois de la pesanteur et que du coup, on a du mal quand même à s'élever et à être... et à obtenir notre place, finalement. Alors, Dieu nous a placés comme prêtres et rois de l'univers. Donc, on est là pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques et sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Genèse 1, 26. Et dans le deuxième récit de la Genèse, on doit cultiver et garder le jardin et on doit nommer tous les êtres vivants. Donc, ça, c'est vraiment un signe de maîtrise, le nom. Pour les Juifs, c'est ce qui donne l'être. Donc, quelque part, c'est une vraie puissance sur les choses de pouvoir les nommer et sur les êtres vivants de pouvoir les nommer. Donc, même chassés du jardin par la faute, on garde une certaine maîtrise sur la nature. Les pères de l'Église ont souvent mentionné que l'homme était appelé à devenir image de l'image. Donc, on a comme si l'homme était au principe du monde créé. Donc, à la fois, c'est le dernier créé et il couronne la création. Et en même temps, c'est lui qui est... La création est faite pour lui. Donc, il est comme s'il était au principe du monde créé. Donc, toute la Bible nous montre nous place l'homme au centre, anthropocentrisme, spirituel. Donc, c'est vraiment l'homme qui est l'axe spirituel de tout l'être créé, tous ses plans et tous ses mondes. Et donc Grégoire de Nice nous dit, c'est pour cela que l'homme a été introduit le dernier après la création du monde, non pas qu'il fût mis au rebut, rejeté au dernier rang, mais parce qu'il convenait qu'il fût, dès son apparition, le roi du monde remis entre ses mains. Donc voilà, il nous crée tout le monde et il nous le donne. Et après le péché, l'homme demeure roi, mais il a cessé de percevoir réellement le monde vrai tel que Dieu le porte dans sa gloire. Il voit l'univers à l'image de sa propre déchéance, dans le mouvement de sa convoitise et de son dégoût, et par là l'obscurcit, le durcit, le morcelle. Donc c'est tout le problème d'être encore roi de l'univers. Et de cultiver le jardin et non pas d'en faire n'importe quoi et de régner en étant en essayant de retrouver le lien avec Dieu. Et puis après on a quand même le Christ qui s'est incarné et ça nous replace encore plus haut que quelque part l'homme à la Genèse puisque donc le Concile Vatican II nous dit que l'homme est la seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même. Et toute la dignité de l'homme, la revendication de ses droits, la conscience d'un destin propre à l'humanité, tout cela suppose une distinction nette entre l'homme et tout le reste de la nature. Et donc, quand on nous parle des droits des bêtes, ben non, on n'est pas ajusté parce qu'on n'est pas sur le même plan, en fait. Voilà, donc l'homme a une place unique pour l'homme dans le projet de Dieu, mais une place qui est aussi relative aux autres, donc il a aussi un rôle par rapport à la création. Et c'est après la création du couple humain que Dieu dit que cela était très bon. Donc on a une vraie vocation à l'éternité, qui est le dessein d'adoption que Dieu a pour nous faire entrer dans son intimité divine. Et quand le Christ s'incarne, bah en fait, il nous rejoint dans notre condition et quelque part, il nous élève encore plus haut, comme au-dessus des anges, puisque lui, il est au-dessus des anges. Ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham, donc Hébreux 2,16. Donc vraiment, il est voilà ce qui est venu sauver, ce qui le Christ, il s'est fait homme. Et donc peut-être qu'on est inférieur en intelligence aux anges, mais en tout cas on les dépasse puisque le Christ nous par le Christ en fait, on peut accéder au mystère du Christ et devenir quelque part au-dessus des anges, lui qui était bien supérieur aux anges dans la mesure où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. Voilà et devant qui se prosternent tous les anges de Dieu. Donc on a vraiment cette vocation à la fois de début de la Genèse d'être roi de l'univers et puis de la par le Christ d'être élevé au-dessus des anges. Et on le voit même dans la Jérusalem céleste, dans l'Apocalypse, où voilà, il y a l'Église qui est couronnée, qui devient reine de ou Marie qui est reine du ciel, mais aussi l'Église dans l'Apocalypse. Alors ensuite, je voudrais parler de corps et âme, puisque quand on voit qu'on est à la fois du côté des animaux avec un corps et puis du côté des anges avec cette âme ou cette intelligence. Alors, on va garder le mot d'âme dans ce sens-là. Donc déjà, dans l'Ancien Testament, l'homme a toujours été considéré comme incarné. Donc on n'a pas d'homme sans chair. Voilà. Et la chair détermine même toute l'humanité entière. Donc c'est l'homme individuel et l'homme collectif. Par contre, là, comme je vous le disais, la survie n'est pas envisagée. Donc on est censé retourner poussière. Mais on a quand même quelques textes de l'Ancien Testament qui font place à l'espérance de la résurrection. Donc on a Ézéchiel, évidemment, 37, avec la revivification des squelettes. Donc là, on n'est plus dans une dimension collective. Et puis dans Job aussi, où on a se lever dans sa chair, voir Dieu. Donc c'est là, voilà, Job dit, je me lèverai, je verrai Dieu. Et puis dans Daniel, s'éveiller de la poussière de la terre. Donc il y a cette idée que quand même, voilà, il y a une espérance, il y a quelque chose qui peut se passer. Dans le Nouveau Testament, Jésus fait écho à la distinction du corps et de l'âme, notamment en Matthieu 10, 28, quand il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Donc il ne faut pas mettre le corps au-dessus de l'âme, et donc on est tout un, mais on voit bien que faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Donc on est quand même, les deux sont liés, et donc c'est les deux qui doivent être sauvés. Et pas seulement l'âme. Voilà. Jésus parle aussi clairement de la résurrection de la chair avec les Sadducéens, donc toujours le même texte avec la veuve qui a épousé les sept frères. Voilà. Et puis il y a surtout Jésus qui a ressuscité, qui est vraiment ressuscité avec un corps, puisque il a mangé du poisson avec ses apôtres et il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, donc c'est qu'elle aurait pu le toucher. Voilà. Donc le corps après la résurrection est à la fois le même et à la fois différent. Donc déjà il ne peut plus mourir, il ne se peut plus se reproduire, donc toujours ce même texte, mais c'est quand même un vrai corps qui a l'air aussi de manger quand même, puisqu'il mange du poisson. Donc voilà. Puis on parle souvent du banquet dans le ciel, donc probablement qu'on continuera à manger. Je sais pas, on fera peut-être plus la cuisine, mais. Alors, un Corinthien nous dit que ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Mais là, quand ils disent corps spirituel, ça ne veut pas dire dématérialisé, mais ça veut dire rempli de la vie de l'esprit. Donc, c'est spirituel au sens irrigué et innervé par l'esprit tout entier. Voilà. Donc, jamais dans la Bible, ni dans le Nouveau, ni dans l'Ancien Testament, le corps n'est considéré comme un instrument extérieur, comme une enveloppe qu'on prend et puis qu'on peut jeter. Il est vraiment, c'est à travers mon corps que je vois les choses, que je suis, voilà, et c'est pas en dehors. Et il n'y a pas de juxtaposition entre d'un côté l'âme et de l'autre côté le corps, et il y a une certaine forme de dualisme. Donc c'est vraiment pas du tout une idée biblique que de penser les choses séparées. Il les a pensées ensemble, et notre nature a été créée en une seule fois par Dieu. Donc dès sa conception, l'homme existe tout entier en puissance. Grégoire de Nyssa prend l'image du grain de blé qui existe déjà dans l'épi. Pour la semence humaine est conçue comme possédant dès les origines du composé humain la puissance naturelle qui est disséminée en elle. Donc elle se développe, elle se manifeste grâce à une sorte d'enchaînement naturel qui la conduit vers son achèvement sans avoir besoin d'un secours extérieur dans son élan vers la perfection. Donc c'est l'idée que tout est là. L'âme, elle est là aussi dans le fœtus. Et le fœtus, l'embryon, c'est déjà un corps, même si, et tout est là. Et c'est de lui-même qui va devenir un corps adulte et une âme adulte. Voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas de... C'est un processus qui est dans le cheminement. Toujours la même idée comme la création. Voilà, on écrit petit enfant, il y a un cheminement, on grandit. Mais en même temps, tout est là, dès le début, et c'est pensé comme un tout. Alors, pour Grégoire de Nyssa, il y a une certaine matérialité dans l'intelligible. Donc, il n'y a pas non plus... Il ne fait pas une distinction complète entre, disons, l'âme qui est complètement hors immatériel, puisque finalement l'âme, elle se nourrit, enfin voilà, elle vit avec le corps, et donc elle est, elle a une forme de, voilà, pas de matérialité, mais enfin, en tout cas, elle a une existence avec un corps, quoi. Voilà, il n'y a que Dieu qui est immatériel. Quand on pense aux sciences contemporaines là, qui nous font des systèmes et des structures assez complexes, ben, on a cette idée que même l'intelligence, on a l'impression qu'elle elle est incarnée, quoi. Elle peut, enfin, pas incarnée, c'est pas le bon terme, mais elle est matérielle, en fait. Voilà. Donc on a des choses comme si il y avait une connivence entre le système abstrait de la pensée ou de la connaissance ou de la structure mentale et puis le côté visible de la création, de la manière dont les choses se déroulent. Saint Paul nous parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur pour nous parler de l'âme et du corps. Il parle à un autre endroit aussi de l'esprit, l'âme et le corps. Donc il y a quelque chose qui est irréductible à son fonctionnement physique, une réalité qui est au-delà du matériel, qui met en mouvement ses membres et sa tête et qui peut à un moment donné déserter ce corps. C'est ce que nous appelons la mort. Donc ce quelque chose qui, Eric, c'est à la fois le souffle vital. Donc si on reprend les termes en hébreu, quand il y a le souffle de vie, c'est le mot nefesh qui est utilisé. Et donc c'est, en fait, ça veut juste dire la gorge. Donc c'est là par lequel le souffle passe. Mais on est sur quelque chose de physique avec la gorge. Donc c'est, voilà, c'est un souffle qui est physique. Le latin anima renvoie plutôt à un flux impalpable qui irrigue le corps. Et puis le grec psyché est plutôt sur le souffle rafraîchissant et vivifiant. Donc toutes ces images-là, ça nous montre que voilà, il y a quelque chose qui anime. Voilà, c'est pas juste extérieur. Bon, c'est aussi la capacité d'amitié, d'amour, et surtout de relation avec Dieu. Et donc chaque fois qu'on essaye de ramener l'intériorité à juste au fonctionnement organique ou au mouvement ou la chose comme ça, bah en fait, on voit qu'on est, il y a quelque chose qui voilà, qui est au-delà, quoi. Ça, on n'y arrive pas. Donc on peut regarder ce que fait la neuroscience, le travail sur la mémoire de Bergson, tout ce qui est autour des conditionnements qui n'explique pas tout. Voilà, donc il y a quelque chose qui est toujours au-delà de ce qu'on pourrait vouloir réduire à la matérialité et au fonctionnement physique. Même l'intelligence, on dit artificielle, bah, voilà, elle s'est pas inventée toute seule, donc elle est partie aussi de quelque chose qui existe. Voilà, donc là, mais à ce moment-là, elle est pensée comme le sujet ultime, en fait, ce qui met en mouvement tout le reste, et qui, avec finalement ou sans son corps, possède seule la véritable identité de l'homme. Donc ça explique que entre le moment de la mort individuelle et la résurrection générale, où finalement c'est le moment où le seul moment où l'âme, elle va être sans son corps, puisque il y en a un qui est en train de dormir au cimetière, voilà. Mais donc il y a cette dissociation pendant ce temps-là qui est assez étrange. Donc on dit que quand même il y a une forme de béatitude et qu'il y a des choses qui se passent. Donc tout ne doit pas attendre la résurrection de la chair. Il y a le Jésus qui dit ce soir tu seras au paradis au bon larron. Il y a dans l'Apocalypse aussi des choses où on parle des gens qui sont en attente mais qui sont déjà dans une forme de béatitude. Donc ce que nous dit l'Église, c'est que c'est provisoire puisqu'il y aura la résurrection après du corps. Mais il y a ce temps un peu curieux où pendant un moment notre âme elle va aérer un petit peu toute seule. Voilà, elle est en attente quand même. Voilà. Mais il y a ce fil continu qui fait que c'est pas à la fin, ils trouvent n'importe quel corps là, parce qu'il y avait aussi cette imagination là que ils allaient piocher dans les corps qui étaient là pour récupérer un corps ou des corps. Non, c'est son vrai corps et donc c'est quelque chose, c'est l'être qui se réconcilie dans la résurrection de la chair. Je sais pas si on aura un cours sur la résurrection finale et ce temps, c'était un peu compliqué de tout faire, donc voilà, on va pas creuser ce point là. Mais le fait qu'il y ait une résurrection de la chair qu'à la fin des temps, c'est aussi parce qu'on a cette dimension collective qui fait que notre corps, il est fait pour les relations. Et donc, s'il y avait eu la résurrection de la chair au stade où chacun était mort, bah, du coup, ce serait, on ne pourrait pas être en relation avec les autres. Donc, c'est cette idée d'attente. Donc, on est un peu en dehors de notre temps à nous. Voilà, donc il y a cette phase-là, mais qui est voulue comme temporaire et qui, de toute façon, n'est pas la situation définitive, ni la vraie béatitude. Saint Paul lui propose donc, il parle de trois choses, l'esprit, l'âme et le corps. Alors il introduit cette notion en plus de l'esprit qui nous fait, donne un peu de, voilà, qui nous dissocie. Parce qu'en fait, quand on dit juste le corps et l'âme, on est peut-être un petit peu trop juste dualiste comme Descartes. Et en fait, c'est plus subtil que ça, puisque dans ce qu'on appelle l'âme, au sens plus général du terme, il y a d'un côté le psychisme, en fait, et ce qui fait qu'on a des sentiments, l'inconscient et toutes ces choses-là. Et puis, il y a la fine pointe de l'âme, comme disent les pères de l'Église, qui est vraiment notre moi profond et qui est en fait notre moi connecté à Dieu, quoi. Donc, qui est la partie pleinement spirituelle, si on pouvait dire, de notre être, qui est notre aspiration et notre lien envers Dieu. Voilà. Donc après, âme, on peut mettre les deux choses. Esprit, on peut aussi mettre les deux choses. Donc après, c'est des mots. Mais en tout cas, il y a bien ces deux aspects-là. Il y a à la fois le fonctionnement un peu immatériel et psychologique, voire même psychologique ou psychique du sujet. Et puis, il y a notre moi profond qui est fait pour Dieu. Voilà, notre vocation, quelque part. Le père Caffarel utilise des cercles concentriques en parlant de ce qui est plus observable, qui est l'extérieur, donc c'est le corps, mais même quelque part le psychisme qu'on voit à travers les réactions, un certain nombre de nos comportements ou nos sentiments. Et puis il y a la fine pointe de l'âme qui est vraiment inobservable, mais quelque part qu'on voit aussi dans les vies de saints, on voit bien ces moments où il y a eu quelque chose, cette connivence et cette révélation de l'âme. Alors le corps est éminemment digne. Et là, je crois qu'on se démarque de toutes les autres religions ou idées philosophiques, beaucoup d'idées philosophiques, etc., de Platon notamment. C'est vraiment que le corps, il est nous-mêmes et qu'il a une vraie dignité, quoi. Donc pour Platon, et ça irrigue toujours la plupart des philosophes, c'est ce qui est conduit, c'est le corps, et puis il y a ce qui conduit, c'est l'âme. Et donc, seule l'âme est intéressante, le corps n'est qu'un instrument qui permet de faire des choses dans ce monde matériel, mais en fait, c'est surtout une occasion de dispersion de problèmes, et il est considéré comme un tombeau. Donc, l'âme, c'est égarée quelque part dans un tombeau qui est le corps, et donc il faut qu'elle se libère de ce tombeau. Voilà. Alors, pour Aristote, c'est un petit peu mieux, parce que l'âme est la forme du corps. Donc, quelque part, il y a une plus grande connivence entre l'âme et le corps. Forme au sens philosophique du terme. Donc, c'est l'âme qui donne au corps sa structure, sa destination, sa force vitale. Et donc, quelque part, qui le conduit aussi. Et à la mort, la matière perd sa forme et donc se délite. Alors Plotin, je vous épargne Plotin. Donc voilà, toutes ces conceptions donnent une vision quand même assez négative du corps, ce qui est très contraire au christianisme. Et si le christianisme a aussi insisté beaucoup sur la morale, c'est aussi parce que justement le corps est éminemment digne et doit être sauvé, comme je disais tout à l'heure. Et donc la morale, c'est aussi important que le corps ne fasse pas n'importe quoi avec. Voilà, donc c'est aussi pour... Vraiment, le christianisme a une très haute idée du corps, qui à la fois pourtant nous limite dans notre espace et nos possibilités. Même Jésus a connu la fatigue, et puis sur la passion aussi, clairement. Donc ça nous rappelle notre fragilité, notre condition de créature, mais c'est aussi dans notre corps qu'on a le lieu de la vérité des sentiments, du sérieux de notre vie, le lieu de la relation aux autres et à Dieu. Voilà. Donc, puisque l'homme est un être vivant, doué de raison et de parole, il fallait que l'instrument qui est pour lui son corps soit adapté aux besoins de la parole. Et c'est instrument au sens noble du terme, comme on dit, un instrument de musique. Voilà. Sinon, on ne pourrait pas jouer notre partition. Et donc, on est à la fois le corps, il est ce qui nous limite, et parfois, on a l'impression que c'est lui qui nous conduit au mal, mais ce n'est pas lui qui est responsable du mal. Il est occasion de péché, mais c'est rarement la cause. Hein. La cause, en général, c'est l'orgueil, c'est la volonté, c'est plein d'autres choses, mais c'est pas toujours le corps. Enfin, le corps peut aussi nous tirer, mais voilà. Et parallèle très beau que faisait le père Giton, c'est que le jeûne et la pénitence, en fait, ils valorisent le corps. Parce que d'abord, ils abaissent notre orgueil, ça, c'est toujours bien. Mais aussi parce que on peut offrir à Dieu quelque chose d'autre de plus que juste des mots. On peut lui offrir c'est cette idée de sérieux de la vie qui engage tout notre être. Et du coup, on peut se mettre à genoux aussi, prier, adorer. Voilà, c'est notre corps, il est engagé dans cette histoire-là. C'est un beau témoignage pour le Seigneur. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Et c'est pas... juste à la Jérusalem céleste, hein, c'est tout de suite maintenant. Et alors ce corps, il est encore plus digne et digne de, voilà, des plus grands éloges et des plus grands soins depuis l'incarnation de Jésus et puis de son ascension dans le ciel. Hein, puisque maintenant, le Christ qui siège à la droite du Père, eh ben, il y a un corps en Dieu. Voilà. Donc le corps, il a même été clairement au-dessus des anges, il est en Dieu. Voilà. Et donc par la droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité. Où celui qui existait comme fils de Dieu avant tous les siècles, comme Dieu et consubstantiel au Père, s'est assis corporellement après qu'il s'est incarné, que sa chair a été glorifiée. Saint Jean Damascène. Donc on a vraiment cette, voilà, cette vocation que notre, notre vocation à être fille et fils de Dieu, et bien elle est avec notre corps et dans notre corps. Alors il y a aussi l'unité spirituelle dont je voulais parler. Donc c'est, on voit qu'il y a l'unité de la... La création, on a depuis le début corps et âme vraiment voulu comme ça, mais le corps important, mais aussi cette dimension spirituelle qui est que si c'est l'Esprit Saint qui fait notre unité en fait. Donc déjà le Christ a annoncé la communion mystérieuse et réelle entre son propre corps et le nôtre. Donc il mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Donc on a une possibilité d'être en union avec le Christ aussi corporellement, et c'est bien tout l'Eucharistie. L'Église est comparée au corps du Christ, un corps mystique du Christ, et donc ça nous montre bien le lien d'intimité qu'il y a entre le Christ et nous, et qui passe par le corps, en fait, donc par du corporel. Vos corps sont le membre du Christ, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit-Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et ce qui se passe dans cette communion, c'est en fait c'est l'Esprit-Saint qui vient unifier les choses et qu'on reçoit dans l'Eucharistie et dans tous les sacrements. Et on peut avoir, par cette ouverture au Saint-Esprit, en fait on a ce qui était l'accomplissement ultime annoncé par Ézéchiel, entre l'unité du corps, du cœur et de l'Esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Et donc, c'est notre vraie vie quand on est dans l'esprit. Quand l'Esprit Saint nous unit notre être, notre corps et âme, en nous unissant au Christ. Il est le trait d'union, donc c'est lui qui fait l'unité, comme c'est lui qui fait l'unité dans la Sainte Trinité. Et on voit bien que Marie, qui a été éminemment emplie de l'Esprit Saint, elle n'est pas morte corporellement, puisque le dogme de l'Assomption, elle est au ciel avec son corps. Et donc il y a déjà aussi le corps de Marie au ciel. Et donc on a cet Esprit Saint qui permet cette unité du corps et de l'âme, qui est voulue par Dieu et qui est toute la dignité de l'homme au-dessus de l'animal, justement par cette âme, et au-dessus des anges, par notre corps. Voilà, c'est des deux côtés. Donc l'homme a été voulu par Dieu à la charnière du monde visible et invisible. Le paradoxe de sa grandeur et de sa petitesse ne s'éclaire pas seulement par l'accident qui a marqué ses origines, le péché, il est constitutif de sa double appartenance au monde des esprits et à celui des corps. En lui, être médiant, la nature inanimée trouve une voix qui peut chanter la gloire du Créateur. L'homme est comptable devant les animaux du langage qu'il a reçu et qui lui permet de donner un sens à ce qu'il vit. La création attend impatiemment la révélation des fils de Dieu. C'est une autre manière de voir la création dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut dire que l'homme domine la création et doit en prendre soin, etc. Mais en même temps, l'homme lui permet que la création rende gloire à Dieu, en fait. Parce qu'elle lui donne une voix et elle lui donne c'est justement d'être tournée vers Dieu. Les anges eux-mêmes attendent que les hommes, ayant accédé à la foi, ayant bénéficié de la révélation des fils de Dieu, leur révèlent le visage du Dieu caché, ce visage que malgré toutes leurs intelligences, ils ne pouvaient encore voir que de loin. Ça, c'est dans Colossiens. À travers l'homme, c'est le Christ, l'homme Dieu, qui ressaisit toute la création, la récapitule. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. »